судьба Сурлан Груса, Сурлан Уволя Сонстиль, споры о старой на новом слоге, Теопос, партизан де Карамзин и партизан де Шишков. Судьба remettait bien évidemment en question le rôle et l'usage de la langue française dans la Russie du début du XIXe siècle. Nous voudrions ici nous intéresser plus spécifiquement à l'usage particulier de la langue française, celui des langues véhiculaires de la mode. Rappelons en effet que dans toute l'Europe de l'époque, le français était la principale langue de la mode, sinon le seul. L'anglais et l'italien constituaient les concurrents non négligeables à la langue de Voltaire, ou plutôt de la langue du journal des dames et des modes. Géniale invention de Pierre de la Mésangère, qui devait influencer durablement toute la presse des modes du 1er 19e siècle. De fait, le français constitue la langue de la mode, et ce pour au moins deux raisons. D'une part, la capitale parisienne est la principale pourvoyeuse des modes pour les élites européennes de l'Ancien Régime. De l'autre part, à l'époque qui nous intéresse, le français est pour quelque temps encore la lingua franca de ces mêmes élites européennes, la langue dans laquelle se traitaient toutes leurs affaires diplomatiques et financières. La critique de la mode est en topos de la littérature européenne du début du XIXe siècle, aussi bien que depuis des pères d'église. Mais revenons au débat de la langue russe. On ne peut manquer d'être intrigué par le très grand nombre de métaphores liées à la mode, qui figurent dans les écrits polémiques les uns et les autres. Mieux, on peut même trouver une personnification de la mode elle-même hein, dans un conte allégorique qui parut dans le journal Vestnik Europe. Chaque fois, les titres, je ne traduis pas en français pour éviter les conclusions, parce que les journaux de mode, justement, ils font des calques très souvent des titres français, donc je vais les prononcer en russe. Donc, on est dans les années 1802-1803. Dans cette histoire, comme dans les meilleurs romans allégoriques médiévaux, tel le roman de la rose ou le pèlerinage de la vie humaine, le personnage principal va sur son chemin, va faire son chemin en quête de la sagesse. Car notre héros tombe sur une femme hystérique, la mode, qui tente de le convaincre qu'il doit impérativement se soumettre à ses dictats et revêtir ses apparences, qu'il soit davantage au bout du jour. Au dernier cri, s'il entend vraiment réussir. Par ailleurs, on trouve encore chez Karamzin une critique acerbe de la mode. Critique qu'il met dans la bouche d'un russe méchant personnage d'origine sibérienne. Ce dernier ne manquait pas d'observer malicieusement que les drapés antiques mis à la mode de toute l'Europe par Joséphine conviendraient mieux au climat méditerranéen qu'aux latitudes de la capitale russe, qu'il déplore en outre que les nouvelles modes a déjà fait de nombreuses victimes. Légèreté, les transparences, leur caractère impalpable de ces bâtiments propices à la pneumonie, dirais-je. Tout comme le bâtiment pseudo-antique est répandu dans toute l'Europe, même les critiques se font jour un peu partout, et pas seulement en Russie, en France, bien entendu, en Angleterre, et le cas de notre image. Donc, Karamzin fait les critiques de la mode parce que le sujet était porteur. Il était sûr ainsi attirer le public, pour mon opinion. Ailleurs encore, Karamzin prend le masque des vieillards mulâtres dans le but de pourfendre les excès. Les addictions diront-nous aujourd'hui que put engendrer la mode ce phénomène frénétique, insatiable, irrépressible. Ceci dit, il faut bien connaître que le jeune Karamzin lui-même ne négligeait rien sa propre tenue et que celui-ci acquiert les dernières nouveautés en manière vestimentaire. Il savait les acquérir. Il nous fait encore rappeler que son disciple Vyazinski fut un parfait dandy. Arrêtons-nous un instant sur ce dernier. Il fut accusé par Shishkov de vouloir introduire dans le domaine de la littérature des caractères non autochtones. Aussi bien que les autres personnes. Plus précisément, à l'occasion de son accusation de Vyazinski, Shishkov fait usage de la métaphore vestimentaire que voici. S'il accorde à tout tailleur russe normal la capacité de pouvoir suivre un patron français dans le but de faire un nouveau costume, il dénie en revanche à tout poète russe la possibilité de transposer le vers français dans le dessin d'écrire un nouvel poème en russe. Русский обыкновенный портной может по образцу французского портного сшить точно такой кафтан. Но русский обыкновенный стихотворец не может по образцу французского стихотворства сочинить точно такую же поэму. Il y a d'autres comparaisons vestimentaires qui étaient utilisées dans les textes de Chichkov, mais comme l'a bien montré Praskourine, on voit des échos dans les textes de Vyazemsky, par exemple en 1917, on voit dans всякий на свой покрой. Язык наш был кафтан тяжелый и сильно пахнул стариной, дал карамзин покрой иной. Пускай ворчат себе расколы, все приняли его покрой. Donc, il est temps de remarquer que tant Вяземский, que Шишков ont non seulement écrit sur la mode, mais ils ont encore été personnellement impliqués dans les activités relatives à la presse et à la mode. Le premier écrivit, en effet, dans des journaux destinés à lectorat féminine, tel Danske Journal, tandis que le second se retrouvait à l'autre bout de la chaîne de la production littéraire et de l'autre côté de la barricade, dans le rôle du censeur. À propos de ce Danske Journal, nous souhaitons aborder à présent la question des magazines de mode qui se développent en Russie dans la première moitié du XIXe siècle. À côté des indétrônables journaux français qui constituent le journal des dames et des modes, ce qui jour en effet plusieurs périodiques en langue russe qui comprenaient des sections évoluées à la mode. Celles-ci furent des types divers et variés. On vit ainsi apparaître progressivement des descriptions d'habits portés lors de telles réceptions à l'Opéra de Paris, des consignes pour la toilette, des illustrations gravées des modes françaises et enfin des patrons des nouveautés parisiennes à réaliser soi-même. Précisons tout de suite que ces différents journaux s'adressent essentiellement aux femmes. Et qui, donc, je vais montrer un petit peu, donc, vous voyez les comptes d'abondance, les coiffures, donc on peut aussi avoir, là vous voyez les flèches, voilà Danske Journal. Donc, on va rester peut-être un peu sûr. Et précisons que tout de suite s'adresser essentiellement aux femmes, donc, ce qui n'aura pas des contreparties masculines. Si ce fait peut se prendre au premier abord, il se comprend beaucoup mieux quand on réalise que, d'une part, l'homme va lui en société tous les jours au lieu d'être relégué dans sa maison, et que, d'autre part, c'est son tailleur qui se tiendra informé des dernières modes parisiennes ou londoniennes par les revues telles que Journal du Tailleur, par exemple. Passons rapidement en revue quelques-uns de ces périodiques russes en nous particulièrement attachant à repérer les usages qu'ils firent de la langue française. Nous commençons par les tentatives avortées de Nicolas Ivanovich Novikov, à savoir la revue intitulée «Modne et jemichne издания библиотека дамского туалета», revue qui n'est parue qu'à l'espace d'une seule année, en 1779. Mais je ne parle pas du XVIIIe siècle, qu'on a vu l'exposé précédent, donc je passe à... Donc, les revues avaient principalement pour but d'amener le beau sexe vers la lecture, à côté donc des inévitables et faciles histoires d'amour, parfois œuvres de vrais beaux écrivains d'ailleurs. Chaque livraison donnait en outre à voir à ses lectrices une image, une gravure de la mode parisienne du temps. Son successeur naturel fut le journal de la Nîmes, qui publiera un groupe de personnes réunies autour des comptes Chalikov. Ce périodique ne vivra lui non plus que très brièvement, durant l'année 1804. Il fut en effet victime de la censure qui lui reprochait une impudicité qui pouvait selon lui offenser la joie féminine. On pourra noter au passage qu'on pouvait y trouver des textes en russe qui voisinaient avec des poèmes en français écrits par des Russes. L'entreprise suivante du comte Chalikov, Danske Journal. Donc, fut en revanche couronné de plus de succès. Il s'agit en effet de ce Danske Journal qui ne compta en 1806 que 3 numéros. Les 4-3 souscripteurs qui furent les siens, on reviendra plus tard, ne suffisaient pas à pouvoir vivre la revue. Le Danske Journal, donc là je vous montre un petit peu que, donc, ce qu'il y a dedans, c'est le journal était C'est une réimpression de 1966 en fait. Donc vous voyez, c'est pas 1966, mais il s'agit de textes que vous voyez par rapport aux images qu'on a vues tout à l'heure avec les comptes d'abondance et les flèches. Donc j'ai pris des photos dans la journal des modes des dames au musée Galliera. Donc là, il n'y a pas d'image, mais il décrit exactement la même année. Donc c'est vraiment contemporain, la même chose. Donc là, vous trouvez traduit en russe, Chromi Grieb, Misragam, Isabelle, ce qu'on vient de voir. Là, on voit ce que le journal. Donc en France, on a les illustrations. Donc en Russie, on n'a que les descriptions de cette affaire-là. Mais bien, pour les retrouver, je pense qu'à Saint-Pétersbourg, à cette époque-là, mais il y a une volonté de passer en Russie. Donc. Et le Danske journal se proposait de non seulement faire lire les femmes, mais encore de publier leurs écrits. Et de fait, on pouvait y trouver d'écouter des biographies des femmes illustres. On se croyait chez Boccace, c'est lui de la nouvelle Clarisse, des textes écrits par des femmes écrivantes. Après la brève existence de ces trois premiers numéros, Danske journal connut néanmoins une seconde vie, aussi tardive qu'inespérée, car il recommençait à paraître en 1823. À raison de deux livraisons mensuelles, régime qui devait le mener glorieusement jusqu'à 1825. C'est dans une des livraisons de l'année 1823 qu'on peut lire une esquisse biographique de la princesse Ekaterina Romanovna Daschkova. Cette esquisse proposait à ses lectrices un fragment d'une lettre de Voltaire à Catherine II, parlant de Daschkova, qui était à Bristol, d'ailleurs, comme on a compris. Il est aussi. Aussi que le discours que la ville française avait prononcé lors d'inauguration de l'Académie russe en 1783. Par ailleurs, le Danske journal portait bien son nom, parce qu'il se conformait au schéma dorénavant canonique du journal des dames et des modes. Au sens le plus strict d'ailleurs, puisqu'il en offrait à ses lectrices des traductions, tant que des dernières nouvelles parisiennes de la mode que des histoires sentimentales indémodables. À côté de ces reprises, ils savaient aussi faire leur place à des œuvres originales des grands russes. C'est ainsi que fil des livraisons que connut Danske journal, on peut remarquer parmi les plumes qui se mirent au service de ces dames, qui figurent celles de Vyazinski ou encore celles de Pushkin. Mais disons un mot de la mode. Si les trois livraisons de 1806 ne comptent pas des gravures de mode, en revanche, celles de 1823 en comportent. Il s'agit de gravures colorées à la main, ne contenant pas de texte, si ce n'est pas la mention de l'année. Les pages de texte de cette section des modes se divisent entre les longues présentations des modes parisiennes du moment, ainsi que des courts fragments intitulés « Explication de l'image ». Qui constituent en fait les légendes des dites gravures. Ce sont des glosses qui précisent les noms, les matières, les couleurs des tenues vestimentaires présentées par des images. Ces textes, les longues présentations des modes, tout comme les explications des images, sont à l'occasion émaillées des mots en français. Ceux-ci apparaissent seulement entre parenthèses, ils sont en fait surnuméraires. Pour celles des lectrices qui savent, ces mots en français fonctionnent comme des garants qui leur assurent une meilleure compréhension de la mode du moment. Pour les lectrices qui désirent savoir, ces mots leur permettent de faire connaissance avec la dénomination originelle de l'objet qu'elles dévorent de leurs yeux. Pour les autres enfants, ces mots apportent un ultime accent de véracité à toute cette entreprise d'importation de la mode française et racontent à présent la périodique Galatée. Autre chose. Dans un numéro des années 1831, on trouve d'un côté d'une gravure présentant une toilette des descriptions strictement équivalentes en français et en russe. Donc il y a deux pages en français, deux pages en russe qui se fait. Donc à travers cette présentation qui s'appuie sur une image, sur juste pas, vous voyez les mots français, donc qu'est-ce que ça donne. Donc les traductions, parfois, il n'arrive pas. Donc, vous avez même pour les descriptions de l'image, partie en français passive, une partie un peu passive. Donc, les rédacteurs de Galatée retrouvaient, sans le savoir, les techniques d'enseignement par les médiations de l'image que le grand pédagogue tchèque Comenius avait inventé plus de 2 siècles auparavant. Donc, il y a l'image, on peut retrouver l'objet, donc il y a les mots en russe, en français, donc ils essayent de mettre tout ensemble. Mais à présent, il ne s'agit plus d'éduquer un enfant, mais d'instruire une femme. Il fallait assurer chez l'électrice la bonne compréhension des nouveaux termes français de la mode, puisque celle-ci, toujours un mauvais mot, doit perpétuellement se réinventer et inventer notamment toujours plus de matières, de techniques, des façons et les mots qui vont avec. Remarquons au passage, on va colorer aussi effectivement la description. Donc les couleurs, on va ajouter à la main et dans la description, on va dire qu'il y a du bleu, quelque chose qui va être telle couleur. Donc remarquons au passage que les traductions russes des textes français proposent parfois des dénominations des gens d'usage en russe. Ce que vous voyez ici, et que, ce que vous voyez ici, par exemple, ils disent qu'il y a Tafta, ils disent que Tafta, ils vont nous remplacer le mot foulard, donc le foulard, vous voyez, donc en Russie, on connaît autre chose. Donc ce ne sont pas les traductions, pour dire que ce sont quand même, ils savent de quoi ils parlent. Donc tout différent est l'approche de la revue contemporaine Malva. Le journal de mode et des nouveautés qui constituent le supplément du télescope moscovite. Les gravures, les plus petites tailles, vous voyez, beaucoup plus petites, on ne voit pas ici, mais c'est vraiment relativement à la page de texte, beaucoup plus petit. Donc, sont insérées dans la revue et elles présentent à la fois le devant, le derrière, les toilettes présentées au cuisse. Pour ce qui concerne la langue française, elle brille par sa quasi inexistence. Et on n'a pu relever des occurrences de mots français que dans les très rares cas. Visiblement, le lectorat est ici moins occupé et on a affaire à une petite noblesse qui ne maîtrise pas ou plus la langue française à l'orée des années 1830. Continuons à suivre le cours du temps tout en descendant la pyramide sociale. Pour parvenir au terme de notre enquête, nous voici arrivés une des livraisons de vases pour l'année 1848. Ce périodique présente essentiellement une revue pratique proposant à l'éclise d'une classe sociale très moyenne des modèles d'ouvrages pour dames. Les patrons des corsages, donc tel le corsage Pompadour de l'année 1848 ou des robes de chambre, et surtout des modèles à broder, des broderies. Ces dernières sont, du reste, directement reprises de la revue française La Brodeuse, une revue qui existait depuis 1834 et que Vasa voilà, donc, évidemment, l'objectif de l'éditeur n'est plus guère à voir avec celui du comte Chalukov. Et l'idéal d'émancipation de la femme par les lectures est celui d'une relation de femme célèbre de l'Antiquité ou de l'époque moderne. Infiniment plus commercial, le périodique a aussi une existence incomparablement plus longue. Il vécut dans les années 30 jusqu'à la fin du siècle, à savoir tout au long d'un arc temporel de plus d'un demi-siècle. Les gravures de Vasa sont tirées des moniteurs de la mode ou des modes parisiennes. De nouveau, la langue française a disparu corps et bien, ou plutôt non, car l'image coloriée porte toujours en dessous des gravures de caractère latin, ce qui pouvait nous réjouir une lectrice russe probablement mal à l'aise avec la langue de Voltaire, comme en témoigne d'ailleurs un passage. Donc, vous voyez, так как многие затрудняются названиями, ou plus métisse, ou en dames, etc. Donc, venons-en à une autre dimension de notre enquête, j'abrège. Dans certains magasins, on trouve les souscripteurs. Par chance, nous a resté les listes des abonnés pour l'année 1806 d'Adarsky Journal. Pour une égale fortune, nous avons liste des abonnés d'un autre magazine, des Vasa 1848. Il nous a paru intéressant, il nous a donc semblé instructif de comparer ces deux listes des abonnés. En effet, chaque liste des abonnés comporte en plus du nom, son titre et sa condition. Il y a son lieu d'habitation, pas toujours malheureusement, mais parfois il n'y a rien. Il y a toujours le lieu d'habitation, mais pour le titre. Donc, si le nom des abonnés ne nous parle guère, la plupart du temps, leur lieu de résidence est en revanche de plus haut intérêt. On trouve bien entendu de nombreux abonnés à Moscou de Saint-Pétersbourg, mais il y a dans tous les pays, pour Vaza jusqu'aux régions les plus reculées de la Sibérie, Oural, donc au nord de Arkhangelsk, Kiev, Sumy, Odessa, Tiflis, donc effectivement, il n'y a pas de Kamchatka, mais sinon, absolument partout. Commençons par les abonnés du Danske Journal. Voilà, donc je vous montre, il y a 43 abonnés. Donc rapidement, on peut dire que si vous voyez les tables des rangs, ici on peut dire qu'il y a deux premières catégories qui font 50%. Donc ce sont les gens d'armes qui sont sous-représentés. On voit haute noblesse, on voit les généraux et les officiers, donc les штабs офицеры. Donc, высший генералитет, штаб-офицеры, есть княгини, есть Козловская, Кубущева, княгини, есть Нарышкин, Зубов, генералы. Donc, on a, nous avons vraiment l'affaire à la, toute la société, donc échantillonnage assez élevé. Pour ceux qui... Il y a les individus dont on ne sait rien, qui donnent seulement son nom. Passons à notre deuxième magazine. Nous sommes dorénavant en 1848 et nous avons une liste complète qui est plus fournie puisqu'il comporte 145 personnes. Pour ce qui est des répartitions sociales, la moitié de ces abonnés ont pu constater que l'entre eux appartient à l'armée. Et un peu plus du tiers sont généraux et les autres officiers. Donc là-bas, c'était la moitié, ici, c'est un peu plus du tiers. Et donc, la deuxième moitié, on trouve les marchands et on trouve même en affranchi. Donc là, je vous propose de regarder un peu parce que vous avez aussi, vous voyez, il y a les приказы общества презрения, mais il y a aussi un professeur de l'université. Donc, et pour conclure, on descend de la famille de la cour impériale, du milieu haut gradé jusqu'au marchand en affranchi. Et dans un cas, il y a, les grands sont beaucoup moins grands. Et on va parler encore le dernier aspect, évoquons à présent un autre aspect de l'élargissement de la base sociale de l'électorat des magazines de mode. Il s'agit de ceux qui semblent bien être une nouvelle catégorie d'électeurs à part entière, non plus des personnes physiques, mais des institutions, comme société des œuvres de charité, l'association des bienfaisance. Donc, c'est-à-dire des personnes morales, des groupes, et pas seulement des individus isolés. Donc, je vais terminer. Parti à la recherche des métaphores vestimentaires qui se furent du jour dans les polémiques du début du XIXe siècle autour de l'intégrité de la langue russe, nous avons parcouru toute la pyramide sociale, des familiers de la cour impériale aux femmes en vue de haute gradée, jusqu'aux plus anonymes lectrices des Vaza. Pour beaucoup de ces femmes russes, la mode a sans doute constitué un moyen d'émancipation, tant réel que rêvé, pour leur permettre d'exprimer une plus grande part d'elles-mêmes. À l'aube du XXIe siècle et dans les nombreux pays, les choses ont-elles vraiment changé ? Question.